VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
Midi à Conakry, 13h à Bangui, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, le président Paul Biya accorde des promotions aux officiers supérieurs engagés dans la guerre contre les militants de Boko Haram dans l'extrême nord du pays. 5 colonels deviennent des généraux de brigade. Parmi eux, Jacob Kodji, commandant de la 4e région militaire qui couvre l'extrême nord. Il dirige l'opération Émergence 3 qui regroupe l'ensemble des activités dans la région visant à combattre les islamistes. Frédéric Jonkep, lui, commande la 3e région militaire qui couvre les deux autres régions du nord du pays, notamment la Damawa. Cameroun toujours, fermeture des locaux de la chaîne de télévision panafricaine Afrique Média par les autorités. Selon le Conseil national de la communication, Afrique Média n'aurait pas respecté les mesures de suspension de 6 mois prises à l'encontre de 2 journalistes de la chaîne. Les explications d'Albert Patrice Eya, directeur de l'information d'Afrique Média.
Le Conseil national de la communication, au mois de février dernier, a commencé à nous créer des problèmes et indiquant que le travail que fait Afrique Média posait des problèmes par rapport à la diplomatie camerounaise, qu'on attaquait les pays étrangers et les autorités étrangères. Ils estimaient que donc ce travail-là n'était pas bien. Et c'est pour cela que le 4 juin, ils ont donc pris une sanction à l'encontre d'Afrique Média. C'est une sanction qu'on ne pouvait pas respecter parce que nous avons estimé qu'elle était disproportionnée dans la mesure où la faute de non-encadrement des panélistes est une faute qui n'est pas une faute directe professionnelle pour un journaliste. Il s'agit des invités sur un plateau.
Albert Patrice Eya, directeur de l'information d'Afrique Média, au micro de Bagassi Koura. RDC, à Goma, dans l'est du pays, certains pères de famille se créent des petits boulots pour scolariser et nourrir leurs enfants. Ils puisent l'eau du lac Kivu, qu'ils transportent sur des vélos pour aller la revendre dans les quartiers les moins desservis par la régie de distribution et de traitement de l'eau. Un travail qui peut rapporter jusqu'à 10 dollars américains par jour. De quoi faire vivre une famille à Goma, nous dit notre correspondant sur place, Charlie Kasereka.
Ils sont autour des 400 cyclistes et vendeurs d'eau dans la ville de Goma. Jeunes hommes comme aussi des pères de famille, ils pratiquent ces métiers. Monsieur Nyangi Gentil, la vingtaine pédagogue de formation, a jugé bon d'abandonner la carrière d'enseignant faute d'un salaire insignifiant et s'est jeté dans la vente d'eau ambulatoire en vélo. Nous l'avons rencontré au milieu d'une centaine de ses collègues de service à la fameuse plage du peuple de Goma, alors qu'il vient tout juste d'attacher ses 10 bidons d'eau de 20 litres chacun sur son vélo. Pourquoi a-t-il abandonné l'enseignement et choisi de pousser les vélos, il nous l'explique ici.
Je ne serai pas seulement devant les enfants en train de les enseigner. Quand je n'ai rien mangé, ça sera tellement bizarre. Alors j'ai jugé bon d'abord de puiser de l'eau momentanément en attendant comment je vais toujours rentrer à l'école parce que j'adore l'enseignement. Mais grâce à la vente de l'eau, je peux même trouver soit 5 dollars par jour, soit même le double. Quand il y a la clientèle.
Rien ne sert à se compliquer la vie pour se lancer dans ces métiers. Juste un vélo, quelques bidons en plastique, une corde pour attacher, accompagné bien sûr d'une très bonne dose de courage suffise. Maman Louise, déjà 3 ans d'expérience dans ces métiers, elle est l'unique femme de Goma à avoir eu le courage de se lancer. Elle pousse son vélo sur lequel 10 bidons d'eau sont attachés.
Sans rien faire à la maison, mes enfants étaient affamés. Du coup, quand mon mari gardait un vélo dans notre maison, je me suis dit que je pouvais aller puiser de l'eau et venir la revendre ici dans mon quartier, comme les robinets ne sont pas toujours alimentés. Ce travail maintenant m'aide à nourrir et scolariser mes enfants quand mon mari n'a rien trouvé. Actuellement, je n'ai plus la même force avec laquelle j'ai débuté. C'est un travail fatigant, surtout pour une femme que je suis. Par jour, je réalise 3 à 4 tours avec mes 10 bidons.
Joël, mère de 10 enfants, habite les quartiers Majengo grâce au service des vendeurs ambulants. Elle ne fait plus de kilomètres pour ramener ses liquides dans son foyer.
J'ai 10 enfants. Au lieu de les envoyer à l'épuisé ou lac, avec tous les risques en cours de route, et même ils peuvent se noyer, je m'approvisionne auprès des vendeurs ambulants à 500 francs congolais. L'eau n'arrive pas à nos robinets. Malgré la qualité de leurs produits qui est douteuse, je n'ai pas vraiment le choix.
Même les centres de santé cliniques recourent aussi au service de ces vendeurs d'eau à la criée. Docteur Eston, Simone dirige une clinique sanitaire dans les quartiers Mabanga Nord, ici à Goma.
Notre clinique a la capacité de 34 lits dehors du personnel soignant. Justement, nous avons un problème d'approvisionnement en eau et le centre a besoin de l'eau pour les toilettes, pour ne pas contaminer aussi nos malades avec d'autres maladies.
Si l'on peut se réjouir du service rendu par ces vendeurs, il y a lieu de s'interroger sur la qualité de l'eau vendue par ces vendeurs à la criée. Circé à certains coins au bord du lac Kivu, l'on peut croiser certains délégués des ONG qui se chargent de mettre du chlore dans des bidons d'eau puisés directement dans les lacs. Baraka est l'un de ces délégués. Il nous explique son travail ici, à la plage du peuple.
Comme c'est dans la saison sèche, nous arrivons à une 2070 individus qui viennent tout de suite au fait puiser de l'eau ici et que nous essayons tout de suite de les servir à un produit chlore actif liquide.
L'institution publique chargée du traitement et de la distribution d'eau potable à Goma sert seulement 24 heures sur 24 les quartiers jugés stratégiques. Deo Kabiona Kizibisha et s'insurge contre les services des cyclistes et vendeurs d'eau.
Logiquement, ces gens-là devraient venir puiser l'eau traitée de la région des eaux, mais il faut savoir que parmi eux, il y a des inciviques qui partent directement au lac puiser l'eau brute, l'eau qui n'est pas traitée, et ces gens-là vont vendre aux paisibles citoyens sans pour autant leur dire la vérité.
Charlie Kasereka à Goma pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
En Mauritanie, le Parlement a adopté une nouvelle loi durcissant la répression de l'esclavage, désormais considéré comme un crime contre l'humanité, et doublant les peines contre ses auteurs. La nouvelle législation établit aussi des juridictions spécialisées pour juger les infractions relatives à l'esclavage et elle accorde aux victimes une assistance judiciaire et une procédure gratuite. En Afrique du Sud, généralisation de l'enseignement du mandarin dans les écoles. La promotion des cours dans la langue chinoise la plus répandue fait partie d'un accord ambitieux sur l'éducation entre Pretoria et la Chine, première économie du continent asiatique. Les explications du professeur André Thomas Hausen à Pretoria, au micro de Nicolas Pinault.
Ce n'est pas une obligation, ce ne sera pas une langue étrangère obligatoire. Je pense que c'est un développement assez naturel. La coopération entre la Chine et l'Afrique du Sud est très très forte depuis une bonne dizaine d'années. Aussi dans le contexte de l'alliance des pays BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud. Ce moment-ci, nous avons par exemple les plus grandes banques avec une participation très très forte chinoise. Nous avons peut-être 600 000 citoyens chinois qui vivent et qui travaillent en Afrique du Sud. Et la Chine est le second plus important partenaire dans le commerce extérieur de l'Afrique du Sud. Or, c'est naturel que les gens aient un intérêt d'apprendre le mandarin. Et je pense que du côté de la politique de l'éducation, les politiciens et les experts se sont dit que ça allait bénéficier généralement le niveau d'éducation pour que les enfants apprennent une langue étrangère qui, d'ailleurs, est une langue compliquée.
Les syndicats sud-africains de l'enseignement, notamment la SATU, dénoncent un nouveau colonialisme.
Bon, oui, évidemment, les syndicats des professeurs ne seront pas trop heureux parce qu'il n'y aura pas de citoyens sud-africains, de professeurs sud-africains qui aient un domaine suffisant du mandarin pour pouvoir offrir ces leçons. Ce seront des Chinois, des professeurs chinois qui devront venir en Afrique du Sud pour offrir les classes. Et c'est naturel que le syndicat s'y oppose un peu. Et la Chine, jusqu'à présent, a investi au moins 200 milliards de dollars directement en Afrique, dans les infrastructures, dans la reconstruction des infrastructures. En fait, c'est un peu faux de dire que c'est un nouveau colonialisme. D'ailleurs, la Chine n'a jamais essayé d'imposer une politique en Afrique. Elle ne s'est jamais mêlée dans les affaires politiques, dans les affaires d'État, en Afrique, n'importe où.
Les syndicats sud-africains de l'enseignement demandent au contraire de mettre l'accent sur les langues africaines. Est-ce le cas dans les écoles sud-africaines ?
L'Afrique du Sud est un des peu pays en Afrique qui a décidé de renforcer les langues traditionnelles africaines. Avec la constitution de 1994, c'est très souvent qu'il nous arrive maintenant des élèves de baccalauréat qui ne parlent pas l'anglais. C'était, de mon point de vue, une décision très courageuse et peut-être un peu trop courageuse parce que tout le reste de l'Afrique a décidé à l'envers. Alors, le mandarin, oui, c'est peut-être pas aussi global comme langue que l'anglais, mais avec la très très grande puissance de la Chine, il y a une certaine logique d'offrir au moins l'opportunité d'apprendre le mandarin.
Le professeur André Thomas Haussen à Pretoria. Et pour terminer, en Chine, les autorités continuent leur enquête sur les deux énormes explosions avant-hier qui ont fait 56 morts et plus de 700 blessés dans le port de Tientsin. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.